في الذي قال المصنف رحمه الله: فإذا قيل لك من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس لي معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وأنا واحد من ذلك العالم. وإذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن، والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. وقوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. Le premier principe fondamental, la connaissance de son Seigneur. Le Cheikh a dit, rahimahullah, si on te demande qui est ton Seigneur, dis: mon Seigneur est Allah, celui qui m'a créé du néant, m'a donné ma subsistance, m'a éduqué et élevé, m'a fait grandir et a rempli les mondes de ses bontés. Mon maître, mon seul Dieu, le seul que j'adore, je n'ai pas de Dieu à part lui. Et la preuve de cela est dans le verset Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Louange à Allah, Seigneur des mondes. Toute chose autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala est comprise dans le mot monde. Et je fais partie de ce monde. Ce qui signifie qu'il existe deux choses: Allah qui est le créateur et le monde qui est la créature d'Allah. Et je suis une des créatures qui composent ce monde. Si on te demande: de quelle manière as-tu pris connaissance de ton Seigneur? Dis: par ses signes et ses créations. Parmi ses signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la lune. Et parmi ses créations, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'il y a dans la terre et ce qu'il y a entre les cieux et la terre. La preuve de cela est dans le verset suivant: وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Parmi ces signes et ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la lune. Ne vous prosternez pas ni devant le soleil ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés, si c'est lui que vous adorez réellement. Sourate Fussilet, verset 37. Ainsi que dans le verset suivant: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Votre Seigneur, c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en six jours, puis s'est établi sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celle-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate Al-A'raf, verset 54. Et le Seigneur, c'est celui qu'on adore. La preuve de cela est dans le verset suivant. Ya ayyuhan nas a'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. vous les hommes, adorez votre Seigneur qui vous a créé, vous et ceux qui vous ont précédés. Ainsi atteindrez-vous la piété. C'est lui qui vous a fait la terre pour lit et le ciel pour toit, qui précipite la pluie du ciel et par elle fait surgir toutes sortes de fruits pour vous nourrir. Ne lui cherchez donc pas des égaux alors que vous savez tout cela. Sourate al-Baqarah, versets 21 et 22. L'imam Ibn Kathir, rahimahullah, a dit: le créateur de toutes ces choses est le seul qui mérite d'être adoré. Donc, le cheikh commence à expliquer le premier point, qui est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Seigneur. Quand on dit on doit connaître Allah subhanahu wa ta'ala, cela comprend quatre points. Connaître et croire et reconnaître en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître sa seigneurie, le fait qu'il est le créateur, le seigneur et maître, celui qui dirige cet univers, qui le nourrit, qui lui octroie ses bienfaits, qui le protège, qui le possède, lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le troisième point, c'est de connaître son droit à l'adoration, sa divinité. C'est que le serviteur ait la conviction ferme que il doit adorer Allah seul et que c'est son droit exclusif. Et il n'a le droit de diriger aucune adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le quatrième point, c'est le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc le serviteur croit qu'Allah a des noms et des attributs parfaits et merveilleux. Quand il a cité après cela qu'Allah nous a créés du néant, il m'a donné ma subsistance, il m'a élevé, m'a fait grandir et a rempli les mondes de ses bontés, il est mon maître, mon seul Dieu. Donc toutes ces qualités qu'il cite, c'est pour définir la seigneurie d'Allah. Car c'est le premier point. Quelqu'un qui ne reconnaît pas Allah comme seigneur et créateur, et pourvoyeur et possesseur, il ne peut pas l'adorer. Car déjà il renie ce point-là. Dans les communautés passées, les gens qui reniaient la seigneurie d'Allah et l'existence d'Allah étaient minimes, très peu. Très très peu. La majorité d'entre eux reconnaissaient la seigneurie d'Allah dans sa globalité. Bien sûr, ils avaient des manquements, parce que s'ils reconnaissaient réellement Allah comme il se doit, ils n'auraient pas donné d'associer Allah dans son adoration. Mais dans sa globalité, ils reconnaissaient qu'Allah était le créateur, le pourvoyeur, le protecteur, mais ils lui donnaient des associés dans son adoration. À la différence de cette époque, où l'athéisme s'est très répandu, au point où beaucoup de gens renient la seigneurie d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc ils ne peuvent pas reconnaître son droit exclusif, qui est le droit à l'adoration, si déjà ils n'ont pas accepté qu'Allah est leur créateur et leur pourvoyeur et leur possesseur et qu'ils vont lui retourner. Donc il y a déjà un effort à faire avec ce type de mécréants, qui est dans le fait de leur faire accepter qu'Allah est leur créateur. C'est le premier effort à faire avec eux avant de passer à autre chose. D'ailleurs, c'est une erreur de vouloir leur expliquer les sagesses de la charia alors qu'ils n'ont même pas reconnu qu'Allah est le créateur. S'il ne reconnaît pas l'évidence, comment il peut comprendre les subtilités de certaines règles religieuses que parfois même certains musulmans à la foi faible ont du mal à comprendre? Donc la prêche que l'on doit diriger vers tous nos musulmans, tous mes créants, est d'abord la prêche au tawhid, la prêche à l'unicité, à lui faire reconnaître Allah comme Seigneur, en l'existence d'Allah, puis en Allah comme Seigneur parfait. Puis quand il aura reconnu ça, on pourra lui faire comprendre qu'il a envoyé des prophètes avec un message, et que le message général avec lequel tous les prophètes sont venus, c'est d'appeler les gens à l'adoration d'Allah unique. Et comme ça, aller discuter avec un kafir, oui, pourquoi le porc c'est haram, parce qu'il y a des maladies dedans, ou les peines légales en islam c'est bien. Les musulmans, ils ont du mal à comprendre qu'est-ce que c'est les peines légales. Tu vas aller expliquer ça à un kafir qui renie déjà l'existence d'Allah? Il faut commencer par la da'wa des prophètes, l'appel des prophètes. Tous les prophètes, ils ne sont pas venus, première des choses, expliquer les peines légales ou expliquer pourquoi le porc était haram ou pourquoi la femme, elle devait porter son voile ou être pudique. Ils sont venus expliquer l'objectif pour lequel Allah a créé les êtres humains. Et c'est ça notre manquement aujourd'hui. La connaissance du tawhid est faible chez les musulmans. Alors comment ils peuvent eux-mêmes appeler les gens à ce tawhid si eux-mêmes, ils ne le maîtrisent pas? Donc il est nécessaire à chaque musulman de base de maîtriser sa croyance, de connaître sa croyance. Parce qu'aujourd'hui on est dans un monde entouré d'ambiguïté, que ce soit les attaques des ennemis de l'islam extérieur ou les attaques des ennemis de l'islam intérieur, les hypocrites et les gens qui viennent avec des innovations dans la croyance et dans les pratiques. Si quelqu'un n'est pas armé avec une croyance solide, une connaissance profonde de son dogme, n'importe quel vent il l'emporte. Un coup il entend une chose, il va à droite. Une autre fois, il entend autre chose, il va à gauche. Il n'est pas stable sur sa foi. D'où l'importance d'apprendre les principes de base de sa foi. Et de toujours les réviser, les étudier, les approfondir. C'est une chose pour laquelle on ne doit jamais se lasser. Plus le tawhid est grand et immense dans les cœurs, et plus l'adoration d'Allah sera forte, plus la personne sera sincère, sera pieuse, connaîtra l'importance d'apprendre les règles de l'islam et de s'y conformer. Et plus le tawhid est faible dans le cœur de l'être humain, plus sa foi est faible, plus sa pratique est faible, et plus il est amené à être touché par n'importe quelle ambiguïté qui l'atteint. Ou par les passions, les désirs. Parfois elle sait que cette chose, elle est haram, elle n'est pas bien. Mais son âme bestiale a pris le dessus. Pourquoi ? Parce que sa foi, elle est faible. D'où l'importance de toujours, toujours étudier le tawhid et s'approfondir dans sa connaissance et se le rappeler et le mettre en pratique, le concrétiser, l'enseigner, appeler les gens au tawhid, car c'est la religion de tous les prophètes, le tawhid, al-hanifiyya, qui est la religion de Ibrahim alayhi salam, qui est la religion d'Abraham et de tous les prophètes avant et après lui. Donc, il a donné comme preuve alhamdulillahi rabbil alamin. La louange appartient à Allah, ou bien revient de droit à Allah, Seigneur des mondes. Al-Alamin, ça veut dire tout type de créature. Il est donc le Seigneur de toutes les créatures. Subhanahu wa ta'ala. Que ce soit les créatures qui sont le monde visible ou invisible, comme le monde des djinns, le monde des anges, le monde des insectes, le monde des hommes, le monde, comme on dit, l'univers des hommes, l'univers, donc Seigneur des univers, des mondes. Mais aussi des créatures qui n'ont pas un monde, comme le paradis et l'enfer, comme le trône, comme le kursi, qui ne sont pas des créatures liées à un monde d'autres créatures comme elles. Allah Ta'ala est leur Seigneur et Maître. Subhanahu wa ta'ala. Puis, l'écrivain a commencé à exposer les preuves de la connaissance du Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et il les a résumées en deux choses. Le fait de méditer sur les signes universels. Et le fait de méditer sur les signes religieux. Les signes universels, ce sont la création d'Allah. Toutes les créatures qu'Allah a créées. Que ce soit de la plus grande des créatures dans l'univers, au plus petit atome. Toutes créatures qu'Allah a créées sont les signes universels. Et les signes religieux, que sont-ils? Ce sont les versets du Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole d'Allah ta'ala qui est le Coran. Dans lequel Allah tabaraka wa ta'ala nous apprend à le connaître, à connaître notre objectif dans notre vie, à connaître l'au-delà, à connaître le jour du jugement, à connaître notre prophète. De même, les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sont venus expliquer, détailler, mettre en pratique tous ces versets du Coran. Et les deux sont une source de révélation. On ne peut pas se passer de l'un ni de l'autre. On ne peut pas comprendre le Coran sans le hadith. Et le hadith est la mise en pratique du Coran. Le hadith, c'est ce qu'Allah a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il lui a ordonné d'exposer le Coran. Le rôle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'exposer le Coran par ses paroles, par sa pratique, par ses approbations. Quand il voit par exemple certains compagnons faire certaines choses et qu'il ne dit rien, il approuve. Quand il a fait cela, il a mis en pratique le Coran. C'est pour cela que les compagnons, ils disaient, on faisait telle chose à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que le Coran descendait et on ne nous l'a pas interdit. Donc ils ont compris de cela que c'est une approbation. Car si c'était interdit et que leur pratique était répandue, alors Allah leur est révélé, que ce soit dans le Coran ou par la bouche de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, les signes religieux, c'est tout ce qu'Allah a révélé comme révélation à ses prophètes et à ses messagers. Et nous, spécifiquement, à notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Puis, le cheikh a commencé à citer les preuves du Coran sur les créatures d'Allah tabaraka wa ta'ala qui sont citées dans le Coran. Donc, il a cité trois versets. Un verset dans Sourate Ghafir, un verset dans Sourate Fussilat, Donc le verset Sourate Ghafir, verset 57, le verset dans Sourate Fussilat, verset 37, et le verset dans Sourate Al-A'raf, verset 54. Donc on les a déjà lus tout à l'heure quand on a lu la traduction du texte. Puis le cheikh a exposé que celui qui mérite l'adoration est Allah tabaraka wa ta'ala seul. Et il a dit le Seigneur, c'est celui qui est adoré. C'est-à-dire que si on a reconnu qu'Allah est notre Seigneur, c'est lui notre Seigneur et Maître. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a tout donné, c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous protège, c'est lui qui nous octroie notre subsistance. Alors qui d'autre à part lui mérite d'être adoré? C'est pour ça qu'Ibn Kathir a dit, le Seigneur est celui qui mérite l'adoration, qui mérite d'être adoré.